À l'heure de Culture Vive avec Pascal Paradou. Bonjour Pascal.
Bonjour Antoine, bonjour à vous.
Bonjour.
Balthazar. La fête commence.
Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture Vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sa modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture Vive, Pascal Paradou.
Si vous entendez parler aujourd'hui de l'Arabie Saoudite et de ses paysages apocalyptiques dans Culture Vive, sachez qu'il s'agit de littérature et du livre de Benjamin Pelletier, À travers sable, un livre édifiant. Si la comparaison entre Ségolène Royal et une pouliche de champ de course vous choque, sachez aussi qu'il ne s'agit que de bons mots tirés du roman de Christophe Donner, 20 000 euros sur Ségo, et tous deux seront nos invités. Si l'on évoque le sort de Gaza et le groupe de télévision Al Jazeera, c'est aussi parce que se déroule au Qatar la 5e édition d'un festival de documentaires très prisé dans le monde arabe. Quand l'actualité s'invite dans la vie culturelle, s'implique dans la marche du monde avec juste la distance nécessaire pour comprendre et sourire parfois. Bref, voilà le programme de Culture Vive, la tendance comme l'on dit, tendance renforcée par le coup de fil du jour, car le téléphone sonne à...
Le Caire.
Bonjour Alexandre Bouchianti. Le Caire, où ce jeudi soir, Daniel Barenboim, le chef d'orchestre israélien, donne un concert dans la salle de l'opéra. Et c'est un concert, comment dire, événement ou polémique?
Polémique plutôt, parce que la musique classique n'est pas encore le grand événement en Égypte. Mais en même temps, polémique parce que beaucoup d'anti-israéliens, et il y en a beaucoup en Égypte, se sont élevés contre ce concert, estimant que on ne pouvait pas laisser un chef d'orchestre israélien jouer en Égypte, même si, selon eux, il prétend être favorable à la paix. D'ailleurs, dans un journal, Loft, le critique musical disait qu'en fait, Barenboim n'était que une sorte de... d'hommes qui jouaient en faveur d'Israël, mais de manière sournoise pour normaliser les relations avec les Arabes. Ce contre quoi s'est élevé le ministre égyptien de la Culture en disant que il n'allait pas être plus palestinien que les Palestiniens qui avaient accordé la nationalité palestinienne à Barenboim, ce à quoi répondent les critiques en disant qu'en fait, le ministre égyptien de la Culture brigue le poste de directeur général de l'UNESCO et donc veut montrer qu'il n'est pas antisémite, accusation qu'il avait subie pour avoir interdit l'entrée de livres israéliens à la foire internationale du livre du Caire.
Donc c'est un débat moins de musicologue que de politique que ce concert.
C'est surtout un débat de politique, un débat de politique qui ne concerne pas uniquement ce concert, mais cela fait des années et des années que tout ce qui est israélien est exclu, même si c'est de l'israélien pro-arabe. On l'a vu, par exemple, tout récemment, il y a eu une levée de boucliers dans le monde arabe, mais à partir de l'Égypte, pour interdire... la projection de la visite de la fanfare, qui est un film israélien qu'on ne peut pas qualifier d'anti-arabe, mais d'autres films qui étaient même pro-palestiniens n'ont jamais pu passer dans des festivals arabes de cinéma. Mais il y a aussi, comme je le disais, la foire du livre du Caire, où tout ce qui est israélien a été interdit depuis des années, alors que cela a été permis pour deux ou trois années, tout à fait au début de du processus de paix égypto-israélien au début des années 80. Et il y a eu même le syndicat des écrivains égyptiens qui a interdit à tout écrivain d'être pro-normalisation en le menaçant d'être éjecté du syndicat, ce à quoi avait répondu le grand écrivain et prix Nobel égyptien Naguib Mahfouz en disant à ce moment-là, moi je ne suis plus écrivain.
Donc cette polémique, ces polémiques en fait, Alexandre, témoignent d'un durcissement de la situation, d'un durcissement aussi des intégristes, puisque le concert de Daniel Barenboim devait se faire pendant la guerre de Gaza, il a été annulé, en fait reporté, il se déroule aujourd'hui, mais le climat n'a pas forcément beaucoup changé.
Non, le climat ne fait que se durcir, même s'il y a des divergences interarabe aujourd'hui sur Gaza, le climat ne fait que se durcir. Et d'ailleurs, le centre culturel, par exemple, israélien, souffre du fait que pratiquement il y a plus un Égyptien qui ose y aller. Et d'ailleurs, des Égyptiens qui devaient aller rejoindre Daniel Barenboim à son académie en Allemagne n'ont pas pu le faire parce que l'académie interdit maintenant aux Égyptiens de s'y rendre sous peur de normalisation.
Et pourtant, la musique adoucit les mœurs. Barenboim, qui sera donc ce soir en concert pour la cinquième de Beethoven, dite la symphonie du destin. Merci Alexandre.
Le matin, on se stimule et le soir, on vous stupéfie. C'est comme ça.
Culture vive, Pascal Paradou.
Faites vos jeux, et si la vie politique n'était qu'un champ de course, c'est ce que laisse entendre Christophe Donner dans son livre 20 000 euros sur Sego, ou le récit d'un parieur avant le fameux congrès de Reims qui devait désigner en novembre dernier le nouveau secrétaire général du Parti Socialiste. Bonjour Christophe Donner.
Bonjour.
Alors il faut dire que vous avez au moins deux passions dans la vie, l'écriture, vous avez commis une bonne vingtaine de romans, et les courses hippiques, mais à propos de ce nouveau livre, il n'est pas marqué roman sur la page de garde, mais sottie. Ça veut dire quoi? Farce?
Oui, farce. Oui, c'est ça.
Mais ça veut dire que...
C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre, voilà, une grande farce avec des personnages caricaturaux qui sont traités de manière théâtrale. Quoi.
Mais ça veut dire que la vie interne du Parti Socialiste, puisque c'est de ça dont il s'agit, est une farce?
Ben oui, elle a un côté grotesque, oui, bien sûr, et surtout dans l'intimité.
C'est-à-dire?
Quand on arrive à pénétrer un peu, à rencontrer ces gens, savoir comment ils parlent, comment ils se chamaillent et ce qu'ils se disent vraiment, quoi. C'est théâtral.
Donc pendant 6 mois, en fait, vous vous êtes mis dans la peau d'un militant. Ou plutôt vous avez suivi l'actualité du PS de très près, mais avec un regard quand même assez peu amène, voire assez méchant.
Oui, parce que moi j'ai un compte à régler avec le militantisme, avec la politique dans laquelle je suis né quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, j'ai passé toute mon enfance avec des militants, quoi. Donc après,
parents communistes.
Oui, je m'en suis beaucoup détaché, je les ai beaucoup détestés. Et puis là, avec le temps, j'ai eu envie de revenir à voir ce qu'ils étaient devenus. Je pense que c'est fini, c'est terminé. Et je suis venu voir dans ce champ de ruines qu'est le militantisme et le socialisme et ce qui restait. Et finalement, il reste des marionnettes qui étaient déjà Thorez et Vermeersch, c'était un peu François Hollande et Ségolène Royal, c'est toujours le même canevas qui est reproduit, mais voilà, je crois qu'il reste plus rien, il reste que des guignols, mais en même temps ils sont là, c'est intéressant à regarder, quoi.
Donc il n'y a pas d'avenir en dehors de Sarkozy? Vous avez voté Christophe Donner Sarkozy, hein, vous le dites dans le livre.
Oui, c'est-à-dire que j'ai voté. Oui, c'est ce qui était intéressant dans le livre, c'est de voir l'effet que ça fait quand on dit dans une famille de gauche qu'on a voté Sarkozy. Quoi. C'était une incompréhension, il y a quelque chose comme si c'était inscrit chez les gens de gauche. Il y a des choses impossibles, mais inconcevables. Inconcevable, et voilà, on peut critiquer la gauche, dire du mal de Ségolène, être plutôt pour, ou même se décourager, etc. Mais voter à droite, mais voter, et pour Sarkozy en plus, c'est une espèce de crime de lèse-majesté, enfin de crime lèse-gauche, qui fait que les gens de gauche sont vraiment des gens en religion, quoi. Et y a des tabous qu'on peut pas transgresser, et ce qui fait le grand réservoir de voix énorme comme ça, c'est...
Mais est-ce que ça justifie à ce point la méchanceté de ce livre 20 000 euros sur Sego? Parce que ne serait-ce que la comparaison, quand vous faites un parallèle entre Ségolène Royal et une pouliche sur un champ de course de Longchamp, il y a quand même un côté insupportablement misogyne et sexiste.
C'est très flatteur pour elle.
Vous trouvez ça?
Ah, oui. Pour quelqu'un qui aime les courses comme moi, et pour tous les turfistes et tous les sportsmen qui se respectent, comparer Ségolène Royal à Zarkava, notamment la dernière gagnante de l'Arc, c'est faire beaucoup de compliments à Ségolène.
Mais vous ne faites pas que ça, vous la comparez aussi à une oie, vous dites elle fait loi.
Oui, ça c'est vrai.
Les animaux ont beaucoup de place
dans ce milieu, d'ailleurs. Quand elle est en train de faire son meeting au Zénith, c'est grotesque. Et voilà, elle essaie de s'envoler. Et les oies, on leur coupe les ailes au départ. Et elle, on lui a coupé les ailes. Et elle essaie de... Voilà, elle circule avec ses prompteurs à droite, ses prompteurs à gauche. Elle est à la fois comique, pitoyable. Et en même temps, elle fascine des gens. Elle enthousiasme des foules. C'est assez incompréhensible pour quelqu'un d'extérieur. Mais c'est comme ça. Et puis, donc j'ai rencontré ces gens-là qui sont fascinés, qui l'aiment profondément. Et moi, je me suis rendu compte, grâce au jeu, etc., qu'on pouvait effectivement l'aimer au-delà.
Mais oui, parce que vous pariez sur elle. Vous pariez 20 000 euros pour remplacer des fenêtres.
Oui, c'est ça. C'est toute une histoire personnelle qui est liée à ça. Et
donc, si vous pariez, c'est que vous y croyez un peu. Ah, et en même temps, vous la descendez.
J'y crois comme un parieur, c'est-à-dire je pense que c'est elle qui va gagner. Mais j'y crois pas de manière... au début, en tous les cas, j'y crois pas comme on croit au bon Dieu. Quoi. J'y crois comme quelqu'un qui va gagner. Et une fois qu'on a misé, ça c'est la magie du jeu, une fois qu'on a misé sur quelqu'un, on l'aime. Quoi. On a envie, quoi qu'il arrive, que même le meilleur ne gagne pas s'il est meilleur, mais que ça soit elle.
Et mais donc, ça retombe après. Alors, il y a dans votre livre, Christophe Deneur, une part objective sur l'actualité politique. Vous racontez les meetings, par exemple, vous reprenez les discours. Alors, c'est vrai que les mots mis sur le papier, quand on est hors du meeting, hors de l'événement lui-même, semblent d'une vacuité absolue. D'ailleurs, oui, vous corrigez Ségolène Royal. Hein, vous reprenez des phrases de son discours en disant « Mais qu'est-ce qu'elle a écrit là ?»
C'est épouvantable. Oui, c'est étonnant parce qu'en plus, elle lit un discours qu'elle a préparé pendant toute la nuit, au moins, avec tout son staff. Et quand on décrypte vraiment ce discours-là, on se rend compte de l'absurdité, de la nullité et de la catastrophe que va représenter ce discours au Congrès, qui lui fait perdre le Congrès.
D'abord. Mais vous êtes candidat près de sa plume ?
Ah, moi, j'adorerais écrire pour les hommes politiques.
C'est vrai ?
Ah oui, c'est...
Ça doit être possible, hein ?
Oui, mais je pose ma candidature parce que c'est vraiment, c'est comme au théâtre, c'est écrire pour les gens pour les acteurs, pour le cinéma aussi. Moi, j'ai participé un peu à l'écriture de films et écrire pour des acteurs la veille du tournage, composer des choses comme ça, c'est fabuleux. Et puis le discours politique, c'est vraiment, c'est une très très belle matière littéraire.
Alors il y a ces faits historiques validés, il y a aussi des conversations intimes. Vous en parliez tout à l'heure, notamment quand Ségolène Royal, c'est au téléphone, traite Martine Aubry de l'hôte. Oui. Ça, vous l'inventez, c'est de la fiction.
Oui, c'est de la fiction tirée de rumeurs, de choses comme ça. Mais évidemment, j'avais pas mon micro là-bas, j'y étais pas. Mais c'est une combinaison.
Ça pourrait être un peu vrai quand même.
Ça pourrait être vrai.
Parce qu'elles se disent des choses horribles.
C'est-à-dire que c'est tellement vrai que les gens du PS ont dit « Mais comment t'as pu t'introduire là-dedans ?» Bon. Donc effectivement, ça sonne en tous les cas assez vrai. Et c'est vraiment comme ça qu'ils parlent. Bon, est-ce que ce sont ces termes-là, dans ces conditions-là ? Mais c'est évidemment de la caricature. C'est une sottise, c'est une charge.
Comment expliquer que le PS, enfin, ou plutôt, est-ce que le PS et Ségolène sont de bons sujets de roman? Parce que Patrick Rambaud, votre confrère en écriture, fait un tabac avec des satires de Sarkozy, rebaptisé Napoléon Ier. Et vous, donc, vous vous attaquez à Ségolène, on a l'impression que le roman politique au vitriol est assez tendance et rapporte, pour payer ses fenêtres, 1 000 euros, cela dit, c'est intérêt. C'est un peu cynique, mais...
Ben, je crois que ce sont des personnages qui nous ressemblent. Je crois que les hommes politiques sont des hommes politiques, ont du succès parce qu'ils savent incarner quelque chose de réel qui est la famille, la sainte famille, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, et que Sarkozy le fait avec ses femmes successives, avec ses histoires de famille, et Ségolène le fait aussi. C'est pas un hasard si les deux finalistes des présidentielles ont tous les deux eu des histoires familiales très difficiles dans lesquelles tout le monde s'est reconnu.
Et vous dites que les écrivains doivent s'impliquer beaucoup plus dans l'actualité. Enfin, c'est ce que vous dites à votre éditeur dans le livre. Vous y croyez ça vraiment ?
Oui, je pense que c'est un terrain très intéressant pour l'écriture.
Et qui permet de mieux comprendre peut-être l'actualité à l'arrivée ?
Oui. Ben, j'espère. Moi, j'ai vraiment voulu faire ça, faire une plongée dans la gauche profonde. Et ça, les journalistes peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire parce qu'ils sont ils ont le même langage que les hommes politiques, en fait. Et ils peuvent pas parler de la politique comme un écrivain. Quoi.
Merci Christophe Deneur. 20 000 euros sur Sego est édité chez Grasset.
tant que la situation n'est pas réglée, il va falloir continuer à faire des documentaires, à imaginer de nouveaux documentaires. C'est vrai, en essayant de changer de style, en essayant de changer de forme, d'apporter de nouvelles interrogations. Comme les faits sur le terrain changent, il faut aussi que les journalistes, que les réalisateurs puissent changer aussi dans la forme, dans leur démarche intellectuelle, entre guillemets.
Dans quelques minutes, nous parlerons de l'Arabie Saoudite, mais d'abord, détour vers le Qatar, où s'achève la 5e édition du festival de documentaires d'Al Jazeera, avec beaucoup de films asiatiques cette année, mais aussi, bien sûr, des longs, des moyens ou des courts-métrages arabes. Un reportage signé Guilhem Delteil.
Lundi dernier, soirée d'inauguration, le film « Cordes inconnues » du palestinien Rifat Mohamed Hadi est à l'honneur. Un film qui retrace le parcours marqué par le conflit israélo-palestinien de deux musiciens de Cisjordanie. Comme les années précédentes, la situation au Proche-Orient est donc au cœur de ce festival, une sorte de passage obligé pour les organisateurs, et encore plus cette année, selon Abbas Arnaout, le directeur du festival.
Vous savez, cette année, cela fait 60 ans que nous avons quitté la Palestine. Donc c'est une année très importante dans l'histoire de la région. En plus, tous les Arabes pensent à la Palestine. Elle doit donc être représentée dans tout notre art, nos livres, nos films, ou quoi que ce soit.
En octobre 1937, fearing British imprisonment, Haj Amin al-Husseini and other members of the Palestinian leadership fled to Lebanon. There was no longer a Palestinian political leadership in the land of the Palestinian people.
La sélection compte beaucoup de films traitant de ce conflit. Un prix spécifique pour récompenser le meilleur d'entre eux a d'ailleurs été créé. Mais pas d'images de sang ni de combat, il ne s'agit pas d'actualité. Le regard est donc plus distancié. Mourad Falah est un réalisateur français. Il a signé un triptyque baptisé « Je suis Palestine ».
Les choses ont changé depuis le début de la seconde intifada. Notre regard aussi d'Européen a changé, notre regard de Français a changé. Et j'ai essayé de démontrer voilà, ce que c'était le fait d'être palestinien au quotidien, vivre avec eux, sans rentrer encore une fois dans le pathos, essayer de comprendre, essayer de se mettre à leur place. Donc ça, c'est les deux premières parties du documentaire. Et la troisième partie qui est « Je suis Jérusalem », où là, je n'ai presque plus de Palestiniens ou d'Arabes israéliens, mais uniquement des Israéliens, des Français et des Anglais, pour m'apporter une analyse sur Jérusalem, sur les enjeux politiques de Jérusalem.
Les chaînes du groupe Al Jazeera ont l'ambition de proposer un autre regard sur l'actualité, un regard qui ne soit pas celui des grandes chaînes d'information occidentales. Et selon Mohsen Barmahani, le directeur du bureau des documentaires internationaux de Press TV, une chaîne de télévision iranienne en langue anglaise, il en va de même pour ce festival.
Quand vous voyez que la cérémonie d'ouverture parlait de Gaza, c'est quelque chose de spécifique. Dans les autres festivals, vous ne trouverez pas autant de films qui traitent de ce sujet. Ici, oui. L'approche des pays occidentaux, de l'impérialisme et de sujets de ce genre, cette approche aussi est différente. Et nous essayons de nouer des liens avec des réalisateurs qui sont sensibles à ces sujets.
L'Europe et les Amériques ont aussi quelques films en compétition dans ce festival international. En revanche, l'Afrique subsaharienne n'a qu'un représentant, le Nigérian Nii Babadé. Selon les organisateurs, peu de réalisateurs du continent ont fait acte de candidature.
Le festival de films documentaires d'Al Jazeera s'achève donc aujourd'hui au Qatar. Il a commencé en tout début de semaine et c'était un reportage de Guilhem Delteil sur ces films que l'on pourra voir dans les semaines à venir. C'est le propre des festivals sur les télévisions du monde, peut-être en tout cas sur les écrans du monde arabe. Après le flash, une plongée dans l'Arabie Saoudite contemporaine avec l'écrivain Benjamin Pelletier qui raconte son expérience dans son livre À travers Sable, livre qui est à la fois un roman mais pas tout à fait un roman, pas vraiment une autobiographie mais on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, il raconte à la fois ce pays et comment il s'est senti un objet exotique au pays du béton et des pétrodollars, dans ce pays où l'on parle de multiples langues mais où l'on parle surtout, comme il l'écrit avec humour, le dollar et l'euro. Tout cela donc dans quelques minutes sur RFI. Après, bien évidemment, c'est la loi et la logique, le flash de la demi-culture vive à suivre.